Bien, donc on continue cet après-midi avec mon intervention sur une autre exposition encore plus modeste. Et je remercie tout d'abord la direction des études dans son ensemble de m'avoir invité pour en parler. Alors je voudrais cet après-midi faire un retour d'expérience sur l'exposition « Statues dans la ville », un musée à ciel ouvert, qui a été organisé en 2015 au musée de Dreux. J'en étais le commissaire sans être le conservateur de ce musée, puisque je suis chercheur à l'inventaire général de la région Centre-Val-de-Loire. Alors parler d'une exposition de statuaire public sous l'égide de l'inventaire général du patrimoine culturel permet, j'en suis persuadé, de faire avancer le débat sur ce qu'aujourd'hui exposer signifie au vu des contraintes matérielles et budgétaires, de la variété des publics, de la multiplicité des acteurs et de la complémentarité des compétences. Ma première partie porte tout d'abord sur cette interrogation, ce qu'exposer veut dire pour un conservateur dans un service d'inventaire. Puisque la mission première d'un chercheur dans un service d'inventaire général n'est pas de monter des expositions. À cela, il y a des raisons qui sont plus ou moins évidentes. La première, c'est que les services chargés de l'inventaire général dans les régions ne conservent pas d'œuvres, même s'ils participent à leur conservation. En deuxième point, ces services, dans leur grande majorité, ne sont pas dotés d'espaces d'exposition. Et de fait, le service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val-de-Loire n'en a pas. Troisième raison un peu moins évidente, le rayon d'action des opérations d'inventaire est le territoire d'étude, qui peut être d'échelle fort variable, du quartier urbain à la région tout entière, et la restitution privilégiée des résultats de l'opération d'inventaire doit se faire sur ce territoire de l'étude, donc d'échelle tout à fait variable. D'où une différence fondamentale avec les projets d'exposition tels qu'on les conçoit dans les musées. Ici, ce n'est pas l'exposition qui justifie la recherche, les partenariats et la publication, mais c'est plutôt l'inverse. Ce sont les résultats de la recherche et bien souvent la publication qui créent les conditions de l'exposition. Ceci étant posé, l'exposition fait partie des quatre grands axes de valorisation et de diffusion des données de l'inventaire général du patrimoine culturel tels qu'ils sont retenus par le ministère de la Culture et de la Communication. D'une part, la publication, l'exposition, le site web et la valorisation éducative. Alors, le projet de service qui portait sur la période 2010-2015 pour la direction de l'inventaire du patrimoine de la région Centre-Val-de-Loire a montré quand même que de son origine en 1972 jusqu'aux années 90, le service régional de l'inventaire de la région Centre et ses chercheurs ont très régulièrement organisé des expositions pour restituer les résultats des études, que ces études soient encore en cours ou achevées. Aujourd'hui, le service patrimoine et inventaire de la région Centre fait actuellement tourner 3 expositions sur l'ensemble du territoire régional, matière à patrimoine, vitraux du XXe siècle dans l'air et architecture rurale. Alors, comme vous le voyez sur l'image, il s'agit pour l'essentiel d'expositions panneaux, autoportants, avec des tirages éventuellement de photographies, comme on le verra pour le deuxième exemple, mais qui, dans le cas de vitraux du XXe siècle dans l'Indre, voyageaient d'établissement patrimonial en médiathèque, avec une durée de rotation très, très brève de 15 jours, ce qui permettait d'avoir d'ailleurs une vraie présence dans la presse locale, qui est extrêmement important pour faire vivre l'exposition. Autre exemple avec architecture rurale, là on a un procédé un peu plus développé avec des panneaux certes, mais également des tirages photographiques qui sont réalisés par les photographes du service dans le cadre des études d'inventaire. Donc ça, ce sont les expositions telles qu'on les connaît en général dans les services d'inventaire. Alors pour ce qui est de mon expérience, à l'origine de mon projet d'exposition, il y a donc d'abord l'opération d'inventaire thématique régional sur la statuaire et les monuments publics de la région Centre-Val-de-Loire. Alors vous avez ici la carte de synthèse qui restitue l'ensemble des monuments publics que j'ai étudiés, soit 3 ans de repérage systématique de 186 monuments et 25 fontaines sculptées qui débouchent naturellement sur un dossier électronique en cours de finalisation sur le logiciel Gertrude. Alors, en se limitant à cette enquête, une exposition de type panneau telle qu'on vient de les voir, ou éventuellement tirage photographique en plus, est ce qu'on fait généralement à l'inventaire. Cependant, dès mes premières recherches, je me suis aperçu qu'en plus des centres d'archives et des bibliothèques, je devais visiter également les réserves des musées de la région, car ceux-ci conservent un important corpus en relation avec la statuaire publique en extérieur. 4 catégories d'œuvres. Alors, je vous présente ici à gauche, vous avez la carte des différents musées qui conservaient des œuvres en rapport avec la statuaire publique dans la région, et les 4 types d'œuvres que je vais détailler rapidement. D'une part, les esquisses. Vous avez ici une esquisse qui est très rare, qui a été coulée en bronze, ce qui est tout à fait original et vraiment rare. Ensuite, les maquettes, qui étaient le cas le plus fréquent, avec la réduction du monument finalement réalisé. Des parties de monuments détruites. Ça, c'est très rare, et en fait, vous avez ici, au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, ce médaillon qui était sur le socle de la statue de la République qui a été fondue sous l'occupation. Et, corpus très intéressant, mais très fragile, les moulages suite aux envois à la fonte sous l'occupation. Donc là, vous avez à gauche un moulage qui est conservé au musée de, au château de Blois, qui correspond à la statue qui avait été posée en 34 à Blois, qui a été fondue et qui a été refondue en bronze par la suite, celle que vous voyez aujourd'hui. Alors cette démarche d'aller vers les musées n'est pas forcément une évidence pour l'inventaire, qui normalement ne s'intéresse pas aux œuvres des établissements gardés. L'enjeu était donc de faire se rencontrer différentes sphères patrimoniales et en un sens de renforcer la chaîne patrimoniale dans son ensemble, c'est-à-dire la collaboration entre inventaire et musée. Alors le socle de cette collaboration passe à mon avis par le conseiller musée de la DRAC qui facilite la prise de contact avec les différents établissements. Donc après la procédure d'enquête, sur le terrain et dans les réserves des musées, la publication dans la collection nationale des cahiers du patrimoine a été conçue pour refléter cette richesse et cette dualité des collections, en extérieur et en musée. Les monuments en extérieur étant visibles, il suffit d'illustrer les plus importants dans le cadre du texte courant et d'indiquer les autres, puisqu'il suffit d'aller sur place pour les voir. En revanche, les œuvres des musées étaient le plus souvent en réserve, et il faut les montrer toutes, c'est le choix qui a été choisi, dans le catalogue qui était en annexe de ce texte courant dans le cadre de la publication. C'est par conséquent un catalogue exhaustif des collections de musées, soit 84 numéros, qui a été ajouté au texte courant de l'ouvrage. Alors comme on le voit ici, c'est bien la publication de l'étude d'inventaire général qui, en devenant un catalogue, crée les conditions de l'exposition. Alors que le projet de publication avançait, ma directrice, la chef de pôle valorisation de la direction et moi-même, nous nous sommes rapprochés de l'association des personnels scientifiques des musées de la région centre, qui est la section fédérée régionale de l'association des conservateurs des collections publiques de France, pour envisager une exposition et susciter l'intérêt des musées. Pour nouer le partenariat, nous avons donc rencontré le bureau de cette association et j'ai présenté mes résultats lors d'une AG en 2013, soit 2 ans avant la sortie de l'ouvrage. Pour beaucoup de musées, 2 ans, c'est souvent déjà trop tard pour les programmations. Aussi, malgré l'intérêt pour le projet d'exposition, plusieurs grands établissements de la région ont décliné la proposition. Une des difficultés du fait que les musées ne prennent pas l'exposition tient à la nature régionale en fait, du thème de l'exposition. Beaucoup de musées tiennent soit à l'ancrage local, le patrimoine de la ville, soit à une visée beaucoup plus universaliste de l'exposition, dégagée partiellement du territoire, ce qui n'est pas compatible avec la logique de l'inventaire qui reste une logique liée à l'étude et dans mon cas régionale. Il se trouve enfin que les établissements de taille modeste portent plus difficilement un projet d'exposition de sculptures. On a parlé beaucoup de sculptures aujourd'hui, mais c'est tout à fait représentatif, qui sont beaucoup plus coûteux qu'une exposition de peinture en général, comme je l'évoquerai plus loin. Et on touche là à une problématique essentielle à ce qu'exposer veut dire pour un conservateur de l'inventaire. La région n'a pas de budget spécifiquement dédié aux expositions et un service d'inventaire ne peut fournir que du temps de fonctionnaire, le mien en l'occurrence, et au mieux, dans le cas de la région centre, un appui organisationnel par le ou la chargée de la documentation et des expositions. En raison de toutes ces contraintes, ce n'est donc pas par hasard que le partenariat que je cherchais s'est noué avec le musée d'art et d'histoire de Dreux. C'est un établissement qui est d'une taille moyenne, qui est en capacité de porter un projet d'une certaine importance, qui offre un espace d'exposition qui était libre et qui dispose d'une équipe scientifique assez restreinte, limitée à sa directrice Axel Marin. De plus, la spécialité de ce musée qui mêle art et histoire rejoignait tout à fait les préoccupations de l'inventaire de façon générale, mais aussi spécifiquement en matière de statuaire public, qui est en soi un sujet à la croisée de l'histoire de l'art et de l'histoire. Redonner à voir cette statuaire publique au musée, tel était l'objectif de cette exposition à la croisée des missions de l'inventaire et des musées et qui pose le problème majeur de présenter en intérieur des œuvres destinées à l'extérieur. Et on touche là effectivement à un vrai problème des expositions de statuaire public, c'est que l'objet de l'exposition statue dans la ville, un musée à ciel ouvert, est problématique puisqu'il s'agit d'exposer en intérieur des œuvres qui sont conservées en extérieur. Et alors même qu'il est impossible de les faire entrer au musée. Je prends juste l'exemple le plus emblématique, la Jeanne d'Arc de Chinon, dont le socle seul mesure 4,50 m. Donc vous imaginez bien qu'il n'est pas possible de la faire rentrer dans un musée. Et la statuaire publique exposée est donc en fait constituée d'esquisses, de maquettes et de documents d'archives, et non des œuvres qui sont conservées et qui restent conservées en extérieur. Les objets rassemblés pour l'exposition servent alors à expliquer les processus de la statuaire publique, de la création du comité du monument jusqu'à son inauguration, et par ailleurs le processus créatif dans l'atelier du sculpteur jusqu'aux aléas de la vie du monument, en général les déplacements et la destruction. Il fallait donc avoir un double discours sur les œuvres exposées, qui permettent d'apprécier d'une part leur qualité intrinsèque, et d'autre part leur rôle de substitut au monument final, invisible dans la salle d'exposition, sinon par des photographies. Par exemple, le monument au mathématicien Denis Poisson de Pithiviers ne pouvait être présenté pour ce qu'apprécie non seulement en raison des dimensions, mais surtout parce qu'il avait été fondu sous l'occupation et qu'aucun moulage n'en avait été pris à l'époque. Sa maquette, que vous voyez ici, est donc le dernier témoin en trois dimensions du monument disparu. L'intérêt de cette maquette est par ailleurs qu'elle est particulièrement soignée et par conséquent exposable pour elle-même. De ce point de vue-là, exposer les trois maquettes du concours de 1878 pour le monument à Rabelais permettait à la fois d'évoquer la statue publique voulue par la ville de Tours et de mettre en exposition le mécanisme du concours, phénomène essentiel dans l'histoire de l'art et qu'il était légitime de rendre sensible au public. Le musée des Beaux-Arts de Tours a par ailleurs la chance de conserver les trois maquettes finalistes de ce grand concours sur les 96 qui avaient été envoyées à ce concours national. Ces maquettes sont par ailleurs en elles-mêmes des œuvres tout à fait intéressantes. Et la maquette de Jean-Paul Aubé, que vous voyez à gauche de l'illustration, qui est arrivée deuxième au concours, offre un traitement de la figure de l'humaniste d'une grande animation et presque plus intéressante que celui qui a été lauréat, qui est ici au centre, Henri Dumège. Exposer les maquettes ne suffit pas à faire cependant une exposition de statuaire publique. Encore faut-il rendre perceptible la différence d'échelle entre la maquette et l'œuvre laissée in situ. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai tenu à exposer des reliefs dans cette exposition à l'échelle 1. Enlevés des socles de monuments publics, ces deux reliefs étaient au musée plus lisibles qu'à leur emplacement d'origine et leur confrontation permettait d'introduire un gradient dans la qualité des reliefs de statuaire publique. Tous les reliefs ne se valent pas et le visiteur pouvait constater que la Jeanne d'Arc au Sacre de Reims, ici en haut à gauche, offre un rendu des différents plans et une qualité de ciselure bien supérieure au Denis Poisson parmi ses collègues de l'Académie de médecine de Deligan pour la ville de Pithiviers. Ces deux reliefs montrent également la matérialité des œuvres en extérieur. C'est quelque chose d'extrêmement important, étant deux œuvres de bronze au sein d'un corpus dans l'exposition, majoritairement en plâtre et en terre cuite. L'autre difficulté d'une exposition de statuaire publique, c'est de donner à voir un élément qui participe puissamment de la construction urbaine, qui s'inscrit dans un cadre urbain, dans un environnement décontextualisé, qui est la salle de musée. La conséquence un peu paradoxale de cette abstraction du contexte, c'est que c'est justement un des rares moyens de permettre enfin aux visiteurs ou aux passants de voir cette statuaire. Celle-ci est en effet tellement inscrite dans son environnement urbain qu'elle finit habituellement par en disparaître et à se rendre elle-même invisible. En ville, on ne regarde pas les statues. Et c'est ainsi, par le musée, en décontextualisant l'œuvre, qu'on lui redonne une visibilité. Ma dernière partie, enfin, va s'attacher plus particulièrement à l'exposition et aux défis qu'elle a pu poser en termes de discours, d'espace et d'œuvre. Alors tout d'abord, le discours devait être modulable. L'ensemble du dispositif d'exposition a été conçu pour être utilisé en trois voire quatre formats possibles selon les itinérances prévues par la suite. Tout d'abord, le format le plus simple et celui qui était le plus évident, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour d'autres expositions de l'inventaire, les panneaux seuls, qui portent le texte et les illustrations des monuments qui s'y rapportent. Je vous montre ici trois exemples, chacun correspondant à une section de l'exposition. Le format numéro 2 que nous avons envisagé, c'était à la fois les panneaux et des tirages de photographies qui sont issus des photographes des services d'un inventaire. Un troisième format qui est ces deux éléments, panneaux plus photographies et des œuvres, qui viennent prêtées par les musées, avec évidemment des cartels peu développés, assez courts, pour chaque œuvre. Et un format 3 bis, si on veut, qui était celui de Dreux, avec les panneaux, les tirages, les œuvres prêtées par les musées et les documents qui provenaient des centres d'archives. En quoi le discours est-il modulable? Ces panneaux doivent en effet fonctionner parfois sans la présence d'œuvres à leur côté et donc produire un discours autonome, et en même temps être capable, dans un autre contexte d'exposition, de servir de texte explicatif aux maquettes exposées. De fait, nous avons envisagé plusieurs manières de visiter l'exposition de Dreux. La visite conférence, la visite source de l'histoire et la visite objet d'art. La visite conférence consiste surtout à lire, comme en feuilletant un catalogue d'exposition, les différents panneaux, avec un coup d'œil seulement rapide sur les maquettes et leurs cartels. La visite source de l'histoire associe les panneaux et les documents d'archives pour les passionnés de sources. Et enfin, la visite objet d'art utilise les panneaux et divers textes pour comprendre et admirer principalement les maquettes et les reliefs. Les espaces d'exposition étaient, dans le cas de la ville de Dreux, particulièrement complexes et offraient, c'est le résultat du défi par contre, la chance d'être un parcours linéaire assez simple. Comme vous pouvez le voir sur le plan, vous avez le premier étage du musée de Dreux, Alors vous voyez tout de suite, le problème, c'est qu'on accède à cet étage uniquement par un escalier qui n'est pas extrêmement large. Et l'espace d'exposition qui est ici en bleu ouvre sur un vide qui n'est pas exploitable, qui dégage l'espace, mais qui n'est pas exploitable. Et vous avez sur tout le pourtour de la cage d'escalier des collections permanentes qu'il est impossible de bouger, en particulier dans cette partie-là où vous avez des grands marbres qui sont exposés. Alors, comme vous pouvez le voir sur le plan, les espaces d'exposition sont très contraints. Premier étage sans ascenseur, avec un vide central qui donne une impression d'ouverture, mais qui limite la surface réelle d'exposition à seulement 150 mètres carrés. C'est donc extrêmement contraint. En outre, le musée est installé dans une ancienne chapelle en partie détruite par les bombardements de 1944, ce qui occasionne deux contraintes fortes. La présence d'une rotonde, qui correspond à l'ancien chœur, et le fait que le bâtiment ait été reconstruit en béton armé. Alors, le fait que la chapelle soit en béton armé libère certes l'espace de tout poteau intermédiaire, ce qui est un atout, mais elle limite les possibilités de percement. Et vous avez ici, en rouge, les espaces qui étaient réservés au plexiglas pour accueillir les photographies, qui étaient indéplaçables du fait de cette structure en béton armé. Donc, le parcours était forcément rythmé par ces grandes photos qui se trouvaient obligatoirement à ces emplacements-là. La rotonde au niveau du cœur, comme je viens de le dire, est une autre difficulté, car elle offre un grand espace disproportionné par rapport au reste du parcours d'exposition. Dans la réflexion sur le parcours d'exposition, on a commencé par trouver une solution pour combler ce vide au milieu du parcours. Et très naturellement, il est apparu évident que ce seraient les trois finalistes du concours pour le monument Rabelais de Tours, dont je parlais tout à l'heure, qui y prendraient place. Nous avons donc réservé la partie rotonde aux monographies de monuments, avec les Rabelais de Tours en centre, encadrés par les deux figures des départements d'Eure-et-Loire. Je vais y revenir. Nous avions la chance, en face justement des trois Rabelais pour Tours, de pouvoir placer dans cette partie, là vous aviez les trois Rabelais qui étaient ici, et là vous aviez un vide, et nous avons décidé d'y placer une très très belle maquette qui a été restaurée pour l'exposition, qui était la maquette pour le Rabelais de Chinon. Et effectivement, les deux grands monuments à Rabelais de la Touraine se retrouvaient ainsi face à face, qui était tout à fait logique. L'autre spécificité d'exposer la statue publique en intérieur, c'est que vous avez ici une terre cuite qui est sans doute la seule œuvre de la main réellement de l'artiste, alors que l'œuvre que vous avez en extérieur n'a pas été du tout touchée, puisqu'elle est en bronze, par le sculpteur Émile Hébert dans le cas présent. Donc vous avez au musée aussi le fait d'exposer une œuvre qui est, ce qui n'est pas le cas en peinture, en sculpture, mais ce que d'autres collègues de peinture pourraient considérer comme étant plus authentique et plus original. Donc l'exiguïté du lieu, l'étroitesse des espaces d'exposition et la place centrale de la rotonde ont ainsi déterminé le dessin d'un parcours très linéaire, qui est aussi un parti pris muséographique fort. Présenter des œuvres variées, tout en expliquant un processus complexe que l'on comprend en avançant d'une section à l'autre. Les contraintes spatiales ont donc finalement servi à la clarté du propos, il faut l'avouer un peu technique, en guidant assez nettement le visiteur. Je vous le prouve immédiatement. Donc nous avons choisi, à partir de la rotonde qui exposait des monographies pour les Rabelais de Touraine et de chaque côté pour des monuments d'Eure-et-Loire, puisque Dreux étant Eure-et-Loire, on voulait qu'il y ait des monographies quand même un peu plus locales. Nous avons déroulé le propos en ayant cette section centrale qui était déjà placée. Donc un avant-propos qui explique le contexte de l'étude et qui présentait le chef-d'œuvre de l'exposition, qui était l'esquisse pour le Jacques-Cœur de Bourges, par Préau. La section 1, qui redonne une chronologie à l'ensemble du phénomène de statuaire public avec des œuvres qui s'étalaient sur tout le XIXe siècle. La section 2, qui s'intéressait au processus de réalisation de l'œuvre sculptée, de l'esquisse à la maquette. Et nous avions en plus la chance d'avoir deux compositions différentes par le même artiste pour le même grand homme, qui étaient les deux esquisses pour Alfred de Vigny par François Sicard. La section 3, après les monographies, restitue le travail de l'architecte pour le piédestal des monuments. La section 4 s'intéresse à la vie des monuments une fois qu'ils sont inaugurés. Cette dernière section était la seule avec deux panneaux de texte, justement. Un pour les inaugurations, qui sont extrêmement importantes en termes de statuaire public, mais qui ne laissent pas beaucoup de traces matérielles, il y avait donc peu d'artefacts à présenter. Et un deuxième panneau pour la vie des monuments après l'inauguration, avec principalement la question des envois à la fonte sous l'occupation. Enfin, une dernière toute petite section, qui n'est pas vraiment une section, mais plutôt un espace multimédia, qui présentait le montage de 3 minutes 30, une compilation d'extraits de films amateurs qui rendent compte des dommages de la Seconde Guerre mondiale sur les monuments, un montage donc de films qui nous avait été fourni par Cyclique, l'agence régionale du film de la région Centre-Val-de-Loire. De la contrainte d'espace initial apparaît effectivement donc un atout pour l'exposition. Le parcours est évident pour le visiteur qui chemine naturellement de section en section autour du vide central. L'exposition a par ailleurs été un moteur pour le musée. C'était la première grande exposition en partenariat qu'elle organisait et un effort particulier a pu être fourni pour l'obturation des baies, celle-ci, les baies les plus proches de la rotonde, du fait du nombre important de documents d'archives que nous avons pu présenter ainsi sur les murs de chaque côté des baies. Enfin, le dernier aspect de cette exposition, comme de toute exposition, étaient les œuvres qui, pour la plupart, ont été découvertes ou redécouvertes. Exposer de la sculpture, nous l'avons bien vu depuis ce matin, a toujours un coût, parce que soit c'est fragile, soit c'est lourd. Exposer de la sculpture prend aussi beaucoup de place, puisqu'on doit pouvoir regarder au moins 3 faces de l'œuvre et donc pouvoir tourner autour. Pour toutes ces raisons, et du fait des contraintes d'espace que nous venons de voir, l'exposition de Dreux a privilégié les œuvres de dimension réduite. La largeur de circulation, en effet, est limitée à 4 mètres ici, sachant qu'il fallait placer les panneaux explicatifs et les œuvres. Et l'absence d'ascenseur suppose que toutes les œuvres sont montées à la force des bras dans un escalier tournant. Les œuvres que nous pouvions demander en prêt devaient donc remplir plusieurs conditions, un format et ou un poids qui permettait à 2 hommes de la transporter en caisse jusqu'à l'étage. C'est donc le Jacques-Cœur de Préau qui était le chef-d'œuvre que je voulais absolument pour cette exposition, qui mesure 97 cm de haut, qui a établi la limite maximale, ainsi que le relief en bronze de Pithiviers pour la question du poids que nous avons vu tout à l'heure, qui était la limite maximale en termes de poids. Deuxième condition, après le format, l'état de l'œuvre, qui devait permettre un transport en caisse navette, comme vous le voyez, un dispositif assez léger, et seulement une légère retouche d'aspect à l'arrivée à Dreux. Enfin, une provenance de musée qui pouvait s'intégrer à un parcours de collecte cohérent pour le convoiement, c'est-à-dire à la fois limiter le nombre de musées prêteurs, donc il fallait essayer d'emprunter le maximum d'œuvres à chaque musée, et essayer d'avoir en plus, ce qui était la contrainte inventaire, d'avoir une égale répartition des musées prêteurs sur le territoire régional. Donc une fois que vous avez croisé toutes ces données, vous avez un corpus qui s'établit très naturellement et de façon assez restrictive. Alors, de ces 3 conditions, la question de l'état des œuvres est primordiale pour une exposition comme celle-ci à petit budget. Il n'était pas question à l'origine d'entreprendre des restaurations fondamentales sur les œuvres empruntées. Seulement un nettoyage, dépoussiérage, comme vous le voyez, qui pouvait être extrêmement important. Cependant, des surprises interviennent toujours lorsque l'on sort des œuvres des réserves, et 2 maquettes en particulier ont alerté les régisseurs au moment où elles s'étaient rassemblées en vue du convoiement. Une tête se désolidarisait pour l'une et c'est les attributs à l'arrière de l'autre qui menaçaient de se détacher. Alors le musée de Dreux a beaucoup de chance parce qu'il a la grande chance de travailler régulièrement avec l'équipe de restaurateurs de Benoît Coignard qui est installée à Dreux et donc de disposer sur place de spécialistes de la sculpture qui n'ont pas ménagé leur peine dans les quelques jours avant l'exposition. Et nous avons pu ainsi non seulement présenter des œuvres bichonnées, avec de légères retouches d'aspect pour certaines, un dépoussiérage très important pour d'autres, mais nous avons également pu montrer les œuvres restaurées après le convoiement. En termes de fragilité, il faut également mentionner les œuvres sur papier. Comme je l'ai dit, des obturations de baies ont été spécialement effectuées pour cette exposition. Cependant, la durée de celle-ci, puisqu'elle courait de mi-mai à mi-octobre, a nécessité de mettre en place une rotation dès la fin du mois de juillet. Heureusement, nous avions fait des demandes assez généreuses de prêts au centre d'archives qui ont tout aussi généreusement prêté un grand nombre de documents, soit identiques, soit comparables. Et donc, nous avons pu tout à fait effectuer cette rotation à la fin du mois de juillet sans difficulté. Alors, toutes ces considérations ne sont pas seulement techniques. Un grand nombre des œuvres que j'ai voulu présenter dans l'exposition étaient peu, voire jamais montrées au public, et précisément pour cette raison, avaient peu de chances d'être restaurées. Le choix de les exposer a permis non seulement de faire découvrir un patrimoine sorti des réserves et d'un intérêt certain, validé à la fois par le grand public et par les scientifiques qui ont vu l'exposition, mais aussi d'assurer leur conservation sur le long terme, ce qui est bien une mission essentielle de nos métiers, qu'on soit en musée ou à l'inventaire. Ce qui fait qu'en conclusion, je dirais que ce qu'exposer veut dire, c'est peut-être finalement avoir la satisfaction de voir l'œuvre circuler, de faire rentrer une œuvre oubliée, comme le Jacques-Cœur de Préau que nous avons vu, qui devrait bientôt se trouver dans les parcours permanents du musée de Bourges du fait de la restauration qui a été conditionnée par la présentation à Dreux. Et enfin, susciter de nouvelles itinérances. Et c'est vrai que nous avons déjà pour 2016 3 itinérances de prévues pour l'exposition sous un format un peu plus réduit, mais quand même 3 itinérances avec des prêts d'œuvres à chaque fois. Et donc, nous en sommes extrêmement contents. Je vous remercie de votre attention.